On a dit.
Quoi? Traduction? Tu veux? Tu veux bien, hein? J'en suis sûr. Alors, on a déjà vu ce soir. Bon, le temps est très très court, donc, mais on a déjà vu tout ce que je vais dire. En bénissant Denis, c'était un vrai exemple ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire. Mais le sujet de la bénédiction, c'est un sujet tellement vaste. Je vais voir si ça marche. Et, chouette. Isabelle, tu te rappelles ces deux journées avec Sam Matthews il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, dans l'ancienne salle, quand il a enseigné par rapport aux noms de Dieu. Tu te rappelles ça? Donc il a dit comment bénir en utilisant les noms de Dieu. Et ce qu'il a dit, c'est la bénédiction se trouve dans le nom. Tu te rappelles de ça? Tu as dit ça combien de fois? Donc voilà. La bénédiction se trouve dans le nom. Mais le sujet de la bénédiction, c'est tellement vaste qu'on peut pas, on peut camper là-dessus pendant longtemps. Mais je voulais faire quelque chose assez précise ce soir. Donc je veux faire le lien entre la bénédiction et l'identité. Et on a déjà vu ça ce soir. Quand on a prié pour Denis, on a prié par rapport à son identité, en imposant les mains, en lui donnant une bénédiction. Donc je vais tout de suite donner le racine de ce que je vais dire ce soir, c'est que la bénédiction véhicule l'identité. La bénédiction enracine l'identité. La bénédiction fortifie l'identité. La bénédiction libère l'identité. Donc, c'est ce qu'on a vu ce soir. On bénit quelqu'un dans une période de leur vie qui est très spécifique, et c'est ça qui enracine l'identité. Donc c'est l'outil primordial que Dieu utilise pour enraciner notre identité. C'est la bénédiction. Donc il y a certains d'entre vous qui étaient là en janvier quand on a béni notre fille Olivia. Elle avait 13 ans. Et on a fait une cérémonie de bénédiction. Certains parmi vous, peut-être tout le monde, savent que les Juifs ont une tradition qui s'appelle une bar mitzvah. Et une bar mitzvah veut dire fils de la loi ou fils des commandements, plus ou moins, choses comme ça. Et aux États-Unis, ils ont une tradition qui commence à grandir parmi le milieu évangélique, où on est une cérémonie qui s'appelle un bar baraka ou une bat baraka pour les filles. Et baraka veut dire bénédiction. Donc on célèbre que les fils et les filles sont les fils et les filles de la bénédiction, au lieu des fils et les filles de la loi. Et donc c'est une tradition juive, mais on ne le suit pas parce que c'est une tradition juive, on le suit parce qu'il y a quelque chose derrière la tradition juive qui est très très important. Oui, je suis toujours là. C'était un défi pour nous de faire cette cérémonie, parce qu'on n'a jamais vu, on a beaucoup entendu parler, on a beaucoup lu les livres qui avaient parlé, mais on ne pouvait pas faire ça avec nos autres enfants, parce qu'il n'y avait pas vraiment une communauté, pas vraiment une groupe de copines, de camarades pour les autres enfants. Et donc on a fait un truc un peu simple, privé, familial, c'était bien, mais c'était pas exactement ça. Ça remplissait pas tous les besoins d'une bénédiction, parce qu'une bénédiction publique, ça c'est encore autre chose. Donc on a fait ça avec Olivia, et pour faire ça dans un milieu qui connaissent pas ce genre de truc, ce genre de cérémonie, on avait dû se préparer nous. Donc il y avait toute une préparation par rapport à la bénédiction, par rapport à ce passage de l'enfance vers le chemin d'être un adulte, mais il y avait aussi le fait qu'il fallait enseigner les copines d'Olivia, il fallait enseigner pendant la cérémonie le public rassemblé là, c'est quoi la bénédiction, pourquoi on le fait, et il fallait créer une bénédiction pour Olivia, c'était tellement important. Donc tout ça, c'est un défi pour nous les parents, parce que les parents ont un rôle primordial à jouer dans transmettre l'identité par une bénédiction. Et donc ça pesait sur nous, et en plus c'était vraiment un enjeu spirituel. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup marqué notre vie, qui a beaucoup marqué la vie d'Olivia, on espère. Donc ce que je voulais dire par rapport à ces traditions juives, c'est que derrière les traditions, on aime les traditions si on aime la culture, tout simplement. Mais derrière les traditions, il y a les raisons pour lesquelles ils sont là, ces traditions. C'est parce que Dieu a fait en sorte que certaines choses que font les juifs sont basées dans les principes de Dieu et il ne faut pas les négliger. Donc il fait... Donc si on dit les traditions juives sont bien, mais je ne suis pas les traditions tout simplement. Bon, c'est bien, on ne suit pas les traditions pour les suivre. Mais il faut faire attention à ce qui est derrière ces traditions, parce que Dieu a des choses à dire, Dieu a des choses à faire à travers ces traditions et les chemins qui sont tout tracés pour nous, si on les suit. Aussi, je voulais passer par pourquoi on fait ces trucs comme ça. Et là où il faut étudier les paroles bénir et bénédiction et là où ça se trouve dans la Bible. Donc, vous êtes probablement au courant qu'il y a un principe qui s'appelle le principe de première mention ou choses comme ça, où on trouve dans la Bible la première mention d'un mot, d'une parole, une phrase, et par ça, on peut voir c'est quoi la base. C'est quoi la base sur laquelle on va bâtir d'autres concepts, d'autres théologies. Donc, en hébreu, on va passer à ça. En hébreu, Il y a les mots bénir, bénédiction, béni et tout ça. L'hébreu utilise souvent les racines très concrètes pour exprimer les choses qui sont peut-être moins concrètes. Et par exemple, si on se met en colère, bon, c'est quelque chose que j'ai lu, je ne suis pas un expert en hébreu, loin de ça. Mais si on se met en colère, nos narines sont... s'élargissent, il y a le souffle qui vient. Donc le mot pour colère en hébreu est « ne ». Donc ça vient de « ne ». Donc c'est quelque chose de concret qu'ils utilisent pour rattacher au concept un peu plus abstrait. Donc c'est la même chose pour bénir. Donc pour bénir, le mot c'est « genou ». Donc, et aussi il y a d'autres sens, d'autres racines. Bon, genou, c'est déjà bien, parce que si on pense au genou, on pense à fléchir les genoux. On me dit même, je crois que c'est en Genèse 24, où les chameaux sont là pour boire. Ils ont fait, ils faisaient pour que les chameaux se mettaient à genoux. Et pour faire ça, c'était le mot bénir. Donc c'est en hébreu, c'était le même mot. Donc c'est, on se met à genoux. Ça, c'est la position pour bénir. Ça montre aussi un mouvement d'en haut en bas. Ça, c'est le mouvement de Dieu pour la bénédiction. Il y a aussi une autre racine qui est, je crois, c'est une racine qui ressemble à Baruch, où ça veut dire prendre un sarment d'une vigne et mettre par terre pour qu'il prenne racine. Encore un mouvement vers le bas. Et le mot barak, bénir, verbe, c'est le même mot pour un éclair qui va d'en haut en bas. Donc il y a un mouvement dans la bénédiction qui est d'en haut en bas. Il y a une petite définition en bas. Et ça, c'est si on rassemble tout ce qui sont les racines et les utilisations diverses, on peut construire une définition de la bénédiction. Fléchir le genou devant quelqu'un pour se mettre à leur niveau, l'honorer et leur donner un don pour qu'ils prospèrent. Donc c'est assez puissant ce que ça veut dire la bénédiction. Donc on peut voir les images d'abord de Dieu avec nous, bien sûr, qui se met à notre niveau pour qu'on puisse prospérer, pour qu'on puisse vivre. Il y a Jésus qui bénissait les enfants. Il est rassemblé, ramassé devant lui, de nouveau comme cette poule qui rassemble ses poussins. Il y a les mages aussi devant l'enfant Jésus qui se mettaient à genoux pour donner quelque chose. Vous savez, probablement ces dons ont sauvé la vie de Jésus pour qu'il puisse fuir en Égypte avec ce qu'ils avaient comme cadeau depuis les mages. Donc c'est une protection, la bénédiction. Alors maintenant, on passe à un petit contrôle. Il faut fermer vos Bibles. Je veux savoir c'est quoi le contexte de chaque passage ici. Il y a certains que tu vas connaître, mais d'autres. Alors, 1:22, Genèse 1:22, c'est quoi? C'est toujours avec la bénédiction. Ça, c'est la petite devinette. C'est la création, mais plus spécifiquement. Plus spécifiquement, non? Bien non. C'est pas les animaux sur la terre. C'est quoi? Quoi? Non, c'est les animaux. C'est les poissons et les oiseaux. Les animaux sur la terre n'étaient pas bénis, selon ce qu'on lit en Genèse. J'ai ma propre théorie, pourquoi, je ne sais pas si c'est théologiquement correct, mais voilà, on va revenir. 1:28, tout le monde sait. L'homme, voilà, l'être humain. De toi. Quoi? Voilà, le septième jour. Le septième jour. 9:1. Chapitre 9, verset 1, c'était quoi? Voilà, c'est Noé. C'est la reprise de 1:28, en fait, deuxième fois. Donc on voit que c'était vraiment nécessaire d'être béni pour prospérer. 12:2, on sait ça. Abraham. Première bénédiction d'Abraham. C'est bien. Alors, pour les oiseaux et les poissons, il y a des idées? Pourquoi les oiseaux et les poissons? C'était la première chose bénie par Dieu. Bon, moi, j'en sais rien, mais voilà, il y avait juste après les oiseaux et les poissons, il y avait l'homme qui était créé. Et moi, je dis que dans l'air, il y a les oiseaux qui dominent. Dans la mer, il y a les poissons qui dominent. Mais sur la terre, il y a l'homme. Donc l'homme, il ne domine pas dans l'air. Il ne domine pas dans la mer. Il ne peut pas y vivre. Il ne peut pas mener une vie dans ces domaines. Tandis que les autres peuvent. Et là où il faut qu'on mène une vie, c'est là où il faut une bénédiction. On ne peut pas vivre sans ça. Donc, je ne sais pas si ça c'est correct, mais c'est ça que j'ai vu dans ça. Et pour le septième jour, j'ai trouvé ça assez intéressant aussi, que le septième jour était béni. Pour moi, ça veut dire que il fallait qu'on savait et qu'on était rappelé, hebdomadaire, que notre source est Dieu. C'est lui notre source. C'est probable que voilà la semaine, c'est la semaine de travail, et on fait plein de choses, on voit les choses que nos mains ont fait fructifier, et c'est facile à tomber dans l'oubli que voilà, c'est Dieu qui a amené toutes choses, c'est Dieu qui pourvoit pour tout. Donc c'est ma conception de pourquoi la bénédiction du septième jour. Je crois que ça c'est encore beaucoup plus riche que ça. Alors on peut voir dans les premières références, donc les poissons, les oiseaux, l'homme, septième jour, Noé, Abraham, et ça peut continuer bien sûr, qu'il y a la multiplication dans ces bénédictions, il y a l'abondance, il y a la protection, la domination, pardon, et d'être béni pour bénir. Et que tu vois déjà cet enchaînement de bénédictions que Dieu voulait. Donc, ce n'est pas quelque chose qui reste toute seule. Voilà, une bénédiction, c'est tombé dessus et ça ne coule pas. Mais bien sûr, ça coule au prochain, ça coule autour de nous. Donc, on peut voir vraiment dans ça cette incarnation de cette définition, fléchir le genou devant quelqu'un pour se mettre à leur niveau, l'honorer et leur donner un don pour qu'ils prospèrent. Ce qu'on peut voir avec cet enchaînement, c'est que la bénédiction est réellement l'évangélisation générationnelle. Donc si la bénédiction s'enchaîne de génération en génération, il y a une évangélisation automatique qui se passe. Tu transmets la vie, la vraie vie éternelle aux générations. Donc c'est vraiment important. Alors, pour Adam, Noé, Abraham, ils avaient les mêmes questions que nous avons maintenant, que nous avons toujours, que nous avons chaque jour. Qui suis-je et où est-ce que je vais dans la vie? C'est quoi ma destinée? Ça, c'est les questions primordiales qui se posent inconsciemment. Et c'est ça, c'est important de garder, que ces questions se posent inconsciemment. Donc, à cause de ces questions, il fallait établir leur identité. Donc, on peut voir dans Genèse 5, 1 à 2, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Donc, c'était un temps où l'identité était enracinée par la bénédiction. Et il fallait ça pour Adam et Ève, et encore pour Noé, après l'arche. Il fallait rétablir cette identité. Qui suis-je? Où est-ce que je vais dans la vie? Dieu était là pour établir cette identité avec la bénédiction. Et pour Abraham, quand il a appelé Abraham des peuples païens, des peuples barbares, sacré, barbare. Donc, pour créer une nouvelle nation, c'était comme ça qu'il fallait faire. Il fallait enraciner l'identité d'Abraham dans Dieu. Et quand tu vois ça, tu vois ce lien clé entre l'identité. Tu vois que la bénédiction véhicule et transmet l'identité. Enracine, établit l'identité, nourrit, fortifie l'identité et que la bénédiction protège l'identité. Donc, c'est vraiment, comme je disais, c'est l'outil de préférence de Dieu pour transmettre l'identité en quelqu'un, pour leur donner une identité. C'est l'outil très, très polyvalent, cette bénédiction. Donc, j'ai tiré beaucoup de choses de plusieurs livres. Il y en a un ici en particulier, dont j'ai deux exemplaires, 11 euros chacun. Plusieurs entrevues déjà à ce livre. Mais l'auteur de ce livre, en étudiant la bénédiction dans la Bible, il a trouvé 7 moments clés dans la vie où la bénédiction rentre particulièrement profondément. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie où on est des portes ouvertes. Et on est des portes ouvertes pour que cette bénédiction rentre et que notre identité soit enracinée. Donc il a trouvé 7, et tu peux voir que le focus est vraiment dans la jeunesse. C'est vraiment dans l'enfance et la jeunesse. C'est là les moments les plus importants. Bon, par exemple, à la conception, on peut se demander comment est-ce que je peux bénir à ce moment de conception. Une idée. On pense concrètement à la bénédiction, ça c'est bien. Et ça c'est concret, mais c'est pas si tellement évident que ça. Oui, mais au moment de conception, en étant béni soi-même, et spécifiquement en étant dans l'alliance de mariage. C'est là où on porte la bénédiction. Et si on est sous l'alliance, ça est transmis automatiquement. Si on est hors l'alliance, il y a cette même porte est ouverte. Voilà. Alors, à la naissance, bon, il y a plein de choses, on peut dire, mais nommer l'enfant, c'est primordial. Bon, ça a été pris à la légère, souvent, mais voilà, j'encourage ceux qui n'ont pas encore les enfants de prendre au sérieux comment tu nommes tes enfants. À la puberté, c'est-à-dire l'entrée dans l'adolescence, ce qu'on a fait avec Olivia, c'est un exemple. Comment faire, comment bénir dans ces moments clés. Donc, comme je disais, cette même porte est ouverte. Dans tous ces moments clés, c'est une porte ouverte. Et on a parlé de la bénédiction, mais la malédiction fonctionne de la même façon. Et quand la porte est ouverte, quelque chose peut être facilement enraciné. Et c'est ça la clé. Et la porte ouverte n'est pas neutre. Et c'est pas que la porte n'est pas neutre, quelque part c'est neutre. C'est qu'il y a quelqu'un qui tient à la porte. Si on ne prend pas notre place à la porte en tant que parent, en tant qu'adulte responsable pour un enfant, il y a quelqu'un d'autre qui veut vraiment faire son propre travail efficacement et être là. Donc, notre adversaire, il connaît ces 7 moments clés et il assure un travail sérieux et destructeur là où en lui donnant la place. Donc, on peut dire là où il n'y a pas de bénédiction, l'ennemi est bien content de semer la malédiction pour qu'elle porte du mauvais fruit dans nos vies. Donc, ces 7 moments clés sont vraiment à veiller. Bon, bien sûr, ce n'est pas les seuls moments. Mais on peut voir dans notre vie, il y a des moments et il y a des relations clés. Et les moments et les relations clés s'alignent. Il faut qu'ils s'alignent dans le bon sens. Et quand ils s'alignent dans le bon sens, il y a les bonnes choses qui se passent. Mais s'ils ne sont pas alignés, une relation clé n'est pas là. Une relation clé ne tient pas ferme à la porte. Ou, oui, tant d'autres choses. Il y a un ennemi qui veut être là, qui veut apporter la malédiction. Donc, dans ces 2 questions, il y a aussi une autre conséquence. Et ça, c'est que où on trouve la réponse de ces questions, cette source-là va régner dans notre vie. Et je disais que ces questions se posent inconsciemment. Ça veut dire qu'on trouve les réponses inconsciemment souvent. Si notre pensée n'est pas renouvelée, et nous avons tous été exposés à beaucoup de choses dans le monde. Donc il y a beaucoup de mensonges qui sont venus, qu'on a vus, à laquelle on a touché, tout ça. Tout ça fait les sources de les réponses à ces questions. Dans chaque moment, qui suis-je? C'est quoi mon identité? C'est quoi ma destinée? Et la source qu'on laisse nous dire la réponse va régner dans notre vie. Donc si c'est Dieu, cette seigneurie, cette royauté dans nos vies, ça nous amène à l'adoration. Mais l'autre côté, c'est l'idolâtrie. C'est si simple que ça. Si nos pensées ne sont pas renouvelées et on est en train de répondre à cette question inconsciemment, ça veut dire qu'on fait un peu... Il y a une idole quelque part dans notre vie. On sait tous qu'il y a des idoles dans notre vie. Mais voilà une façon que ça se... Oui, une façon concrète que ça se voit. Donc c'est écouter les réponses qui sont justes ou pas justes. Alors, Dieu n'a pas nous laissé sans protection dans son plan à lui. Donc, dans son plan à lui, c'est prévu qu'il y a des personnes qui ont des réponses. Bien sûr, ces plans à lui ne sont pas toujours suivis. Mais quand même, c'est ses plans à lui. Donc, principalement, c'est les parents. Pour chacun de nous, ça aurait été nos parents, ça devrait être nos parents. Et souvent, ça c'est trop rare que ça se passe comme ça. Mais Dieu ordonne aux parents principalement de transmettre son message aux enfants. La réponse à ces deux questions. Et la réponse est transmise de nouveau par la bénédiction. Donc les enseignants sont probablement les prochains agents dans nos vies qui peuvent apporter une bénédiction, qui peuvent apporter les semences de notre identité. Donc c'est une énorme responsabilité. Mais si tout se passe selon la prescription de Dieu, c'est quelque chose qui coule assez naturellement. C'est-à-dire, si je suis béni, je vais bénir. C'est si simple que ça. Si j'ai grandi connaissant la bénédiction, je vais le redonner. C'est si simple que ça. Mais ça marche dans l'autre sens aussi, bien sûr. Donc voilà l'enjeu dans nos familles, dans nos couples. Et voilà l'importance de la venue de l'esprit d'Élie pour réconcilier nos cœurs dans nos foyers. Parce qu'il y a, un tel besoin pour ça. Alors, pratiquement, comment faire cette bénédiction? Comme je disais, on a vu assez réellement ce soir, avec Denis en particulier, comment bénir. Bon, c'était une occasion spécifique, mais bien sûr, ça s'étale dans toute notre vie et dans toutes nos relations. Donc ça, c'est tiré de notre livre que j'ai lu, qui s'appelle « La bénédiction ». Et ils ont trouvé cinq façons de bénir, et c'est principalement la façon entre les êtres humains. Bien sûr, on peut bénir notre gouvernement, on peut bénir notre pays, notre nation. Je crois que la plus grande bénédiction qu'on puisse être, c'est de bénir individuellement pour que ça amène une bénédiction plus largement. Mais bien sûr, on peut bénir avec nos paroles, autrement les autres entités corporatives. Donc la touche physique, pour certains d'entre nous, ça nous a manqué tellement. Pour d'autres d'entre nous, on a vécu une vie riche avec affection dans le foyer. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Les paroles significatives. On a vu avec Denis, on s'est imposé les mains, on a prononcé les paroles significatives, on a attaché une haute valeur à lui et à sa vie, et c'est juste. On a visionné, Dieu même nous a donné les paroles prophétiques pour un avenir significatif pour quelqu'un. Et si on voit les premiers quatre comme les briques, on peut voir le dernier comme le mortier. Donc, c'est-à-dire l'engagement actif tout au long d'une vie, tout au long d'une relation, tout au long d'une circonstance pour faire ces quatre autres choses. Et ça fait les cinq façons de bénir que ça peut être appliqué n'importe où, bien sûr. Allez, donc je suis allé assez vite parce que le temps est cool, mais une chose à laquelle j'ai pensé ce soir, c'était que parmi nous, il y a beaucoup qui ont passé par les douleurs par rapport à la bénédiction qui aurait dû être fait dans notre vie, transmis par nos parents, transmis dans nos foyers, transmis par nos enseignants. Nous comme parents, nous comme enseignants, on a bien fait des erreurs, on a bien manqué de faire ça dans nos vies aussi, c'est-à-dire on a laissé certaines portes ouvertes là où il fallait que normalement qu'on se tienne. Et donc il y a aussi une sortie que Dieu a pourvue. Il y a aussi une sortie que Dieu a pourvue si tu ne se passais pas comme son plan à lui. Il y a toujours cette sortie. Bon, j'ai choisi une situation que peut-être certains d'entre vous avaient entendu parler. C'est quelques petits versets bien perdus dans 1 Chronique 4 dans la Bible. C'est tout au milieu des généalogies. Dieu a choisi un homme pour le reconnaître. Et il y a une raison bien particulière, et c'est parce que lui, il a surmonté les mensonges qui étaient semés dans sa vie. Et donc ça, c'est quelque chose pour nous tous. Moi, j'ai grandi dans un foyer avec plein d'amour, plein d'affection. Bien sûr, mes parents, ils ont fait leurs erreurs. Et là où ils ont fait leurs erreurs, et là où il y avait d'autres relations clés dans ma vie, qui ont sémé les mensonges ou à travers laquelle l'ennemi a sémé ses mensonges. Moi-même, j'ai besoin de cette même prière où je dis, Dieu, je veux surmonter les mensonges qui étaient prononcés sur ma vie. Alors, si tu lis ces deux versets, c'est tout ce qu'on a pour la vie de Jabez dans la Bible. Donc, il faut tout lire entre les lignes pour voir c'est quoi ces détails ou c'est quoi les conséquences de ce qui s'est passé. Alors, sa mère l'appela du nom de Jabez. Jabez veut dire peine, veut dire douleur. Donc, c'était son nom à lui. Parce qu'elle, elle a souffert. Donc, elle a souffert, elle ne savait pas bénir, elle a transmis ce qu'elle a reçu, c'est-à-dire la souffrance, je le transmis à mon enfant, je le nomme souffrance. Toi, tu es une peine, c'est ton nom. Et quelque part dans sa vie, il a cru quelque chose autrement, mais il savait que ce n'était pas si facile que ça. Il fallait un engagement avec Dieu pour surmonter ça. Donc, si tu décortiques sa prière, c'est très intéressant. Alors, déjà, il invoqua le Dieu d'Israël. Déjà, il savait qui est Dieu. Déjà, il savait qui est sa source. Si tu me bénis, la prière égoïste, primordiale, si tu me bénis, Seigneur, s'il te plaît, et une prière qu'il faut que nous prions tous, quelque part régulièrement dans notre vie, Parce que si tu n'es pas béni, tu ne peux pas bénir. C'est impossible. Et si tu ne peux pas bénir, tu vas manquer à quelqu'un pour être cette véhicule de leur identité transmis par Dieu. Donc, quelque part, c'est égoïste. Quelque part, c'est vraiment une façon de se donner, de prier Dieu, que tu me bénisses. En agrandissant mon territoire, autrement dit, laisse-moi voir la façon que tu vois. Laisse-moi voir ma destinée selon tes façons de voir. Laisse-moi pas... Que je reste pas coincé dans mes petites idées. Que je reste pas coincé derrière un mensonge, derrière une voile qui dit « je peux pas ». Donc, agrandis mon territoire, Seigneur, agrandis mon territoire. Et si tu l'agrandis, s'il te plaît, sois avec moi. Ta main puissante, ta main protectrice, ta main de soutien, ta main d'amitié, ta main d'amour, ta main de bénédiction, d'onction sur moi. Ta main. Si tu vois dans psaume 139 que tu sois devant moi, derrière moi et que ta main soit sur moi. Donc c'est la prière quand je vais voir avec les yeux de Dieu, c'est la prière juste suivante. Il faut ta main, Seigneur, avec moi. Si tu me préserves de malheur, bon, d'autres traductions, si tu me gardes de la tentation, si tu me gardes du mal, du malin, du diable, si tu me gardes de l'ennemi. Donc c'est comme dans notre Père, que je ne sois pas tenté, que je ne sois pas protégé de mal. Et après, j'ai choisi cette traduction en particulier, que je suis préservé de toute peine. Dans d'autres traductions, j'ai vu aussi en anglais que je ne donne pas la peine aux autres. Et son nom était peine. Et donc, la dernière partie de sa prière, c'est que je surmonte les mensonges déjà semés dans ma vie. Donc, c'est une prière très, très important à prier ou à étudier pour voir c'est quoi les éléments dedans. Et le fait qu'on s'est arrêté toute cette généalogie pour dire que Jabez était plus considéré que ses frères. Ce n'était pas les hommes qui a considéré plus que ses frères, c'était Dieu. Selon le regard de Dieu, Jabez était plus considéré parce que lui, il savait l'enjeu qu'il vivait. Et il savait quoi faire. S'engager avec Dieu pour surmonter ces mensonges déjà semés dans sa vie. Donc pour moi ce soir, il y a ces deux parties. C'est-à-dire, si on est des parents, si on est des enseignants, si on est des personnes dans notre vie pour laquelle on tient une relation de responsabilité, une relation d'amour, une relation qui couvre. Cette idée de bénir pour transmettre une identité, c'est primordial. On ne peut pas rater les chances qu'on a devant nous. Il ne faut absolument pas rater ces choses, ces chances. Parce que si on les rate, il y a quelqu'un d'autre qui est prêt pour remplir ces portes ouvertes. Deuxièmement, en grandissant avec nos blessures et nos mensonges, il y a une façon de sortir. Il y a une façon de sortir comme adulte. On ne veut pas dire que je ne vais pas bénir mes enfants parce qu'ils peuvent de toute façon sortir en tant qu'adulte. Non, ça, on a fait bien des dégâts si on fait comme ça. Mais qu'il y a toujours un espoir, il y a toujours une espérance. Mais il faut qu'on s'engage avec Dieu pour dire « je ne veux plus de ces mensonges. Je veux être vraiment enraciné dans l'identité que tu as pourvue pour moi. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. C'était ma prière ce soir qu'il n'y avait rien qui sorte, qui n'était pas prêt à sortir dans le cœur de quelqu'un qui a dit, voilà, j'avais des parents qui ne m'ont rien dit, j'ai manqué tout l'amour, toute la bénédiction. Si c'est le temps de le traiter, si c'est le temps, on peut prier pour toi, super. Si tu n'es pas prêt, c'est bon que Dieu te couvre, que cette souffrance ne sorte pas avant le temps. Mais je ne veux pas laisser ce temps, je sais que c'est tard, mais s'il y a des personnes qui veulent recevoir la prière, soit pour eux-mêmes, soit pour leur responsabilité en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que responsable, en tant que chef, en tant que patron, c'est le temps maintenant. Donc, je ne sais pas. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais, mais qu'est-ce que tu en penses?
Voilà. Je propose simplement qu'on termine ce culte, et s'il y a des personnes au milieu de nous qui auraient besoin, qui sont interpellées par rapport à ça, qui auraient besoin compris, mais restez simplement, on va avoir un temps avec vous.